Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mardi 31 octobre 2017. En direct de Washington, Idrissa Sidoulia et Anne Albertson pour commencer les titres.
Au Niger, démission du ministre des Transports, Omar Hamidou Tchiana.
Washington s'engage à apporter jusqu'à 60 millions de dollars à la force anti-djihadiste du G5 Sahel.
Conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC, aujourd'hui à N'Djamena, au Tchad.
Au Libéria, la présidente Ellen Johnson Sirleaf dément les accusations d'ingérence dans le processus électoral.
Ici à Washington, premières inculpations hier dans l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Niger, le ministre des Transports, Omar Hamidou Tchiana, a démissionné hier de son poste. Il a simultanément quitté, avec ses députés à l'Assemblée nationale, le président Issoufou, qu'il soutenait depuis 2013 contre son ancien patron, l'opposant Hama Amadou. Précision de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Le ministre des Transports, Omar Hamidou Tchiana, ne donne pas de détails sur ce qui motive sa décision. Respect à des principes et fidélité à ses convictions, peut-on cependant lire sur son compte Twitter. Beaucoup de questions dans l'opinion après cette démission qui intervient quelques jours après la survenue d'un accident grave de la circulation ayant fait une trentaine de morts vendredi dernier, accident à l'issue duquel Omar Hamidou Tchiana a retiré provisoirement l'autorisation d'exercer à la compagnie de transport mise en cause. Un retrait qui ne durera cependant pas plus longtemps que le week-end puisque les activités de la compagnie ont repris ce lundi. Un remaniement technique du gouvernement est aussitôt annoncé. Le portefeuille qu'occupait Omar Hamidou Tchiana est attribué à Mahamadou Karigo, un des caciques du parti au pouvoir, président actuel de la Haute Cour de justice et ancien ministre de la Défense nationale. Ministre depuis 2011 dans les différents gouvernements du président Issoufou Mahamadou, Omar Hamidou Tchiana était jusqu'en 2013 militant du parti de Hama Amadou qu'il refusa de suivre lorsque ce dernier et sa formation politique quittaient pour l'opposition. Il a depuis lors créé son propre parti politique, l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger, Amen Amin. Abdulrazak Idrissa, à Niamey pour VOA Afrique.
Les États-Unis se sont engagés hier à apporter jusqu'à 60 millions de dollars à la force anti-djihadiste du G5 Sahel, a annoncé hier le secrétaire d'État américain Rex Tillerson. Le point avec Ekia Badou.
L'enveloppe pour soutenir la force conjointe du G5 Sahel pourra aller jusqu'à 60 millions de dollars, a révélé hier le secrétaire d'État américain. C'était peu avant une réunion ministérielle au Conseil de sécurité de l'ONU où le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a appelé les partenaires à jouer pleinement leur rôle. Son homologue malien, Abdoulaye Diop, a insisté sur un soutien multilatéral, y compris à travers les Nations Unies. Nikki Haley, ambassadrice américaine à l'ONU, a estimé que la force du G5 doit être avant tout dans les mains des pays de la région, avec le soutien continu des États-Unis. Pour la première année d'opération de cette force, les besoins sont estimés à 423 millions d'euros, dont seuls 108 millions ont été levés à ce jour. Une conférence est prévue à Bruxelles le 14 décembre prochain.
Tenue aujourd'hui à N'Djamena au Tchad de la conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. Plusieurs problèmes qui freinent la bonne marche de l'intégration économique dans la sous-région seront débattus au cours de ce sommet, nous dit notre correspondant sur place, André Kodmajingar.
Les chefs d'État de cette organisation sous-régionale auront à examiner le document adopté ce dimanche 29 octobre ici à N'Djamena par le Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale, lequel document prévoit les pistes et solutions pour la libre circulation des personnes et de leurs biens dans la zone CEMAC et la problématique du financement de la communauté. Pour assurer l'indépendance de cette organisation, les chefs d'État membres ont intérêt à injecter des ressources suffisantes, car le montant accumulé des arriérés des États vis-à-vis de la communauté entre 2009 à ce jour s'élève à plus de 200 milliards de francs CFA. Autre dossier qui seront abordés par le chef d'État à cette conférence, c'est l'épineuse question de la lutte contre l'insécurité dans la sous-région imposée par la secte Boko Haram, la construction des routes et des chemins de fer, ainsi que les nominations aux postes des différentes institutions de la CEMAC. A noter que le président camerounais Paul Biya, qui a longtemps brillé par son absence à de telles rencontres, a foulé le sol tchadien depuis hier pour participer à cette conférence. André Kodumadingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Au Libéria, la présidente Ellen Johnson Sirleaf a démenti hier les accusations d'ingérence dans le processus électoral. C'est son propre vice-président, Joseph Boakai, qui l'avait mis en cause. M. Boakai fera face le 7 novembre à George Weah, l'ex-star du football au second tour de la présidentielle. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le Parti de l'Unité, dont sont membres Joseph Boakai et Ellen Johnson Sirleaf, a accusé la présidente d'ingérence après une rencontre à son domicile avec des responsables de la Commission électorale nationale avant le premier tour du 10 octobre. Ces allégations sont sans fondement, a déclaré Jérolimek Pia, porte-parole de la présidente. Cependant, il a admis que Mme Sirleaf a rencontré des membres de la Commission électorale pour simplement s'assurer du bon déroulement du processus. La formation de M. Boakai a par ailleurs dénoncé des fraudes systématiques et à grande échelle lors du premier tour. Joseph Boakai a confirmé qu'il participerait au second tour, mais réclame que ses plaintes soient auparavant clarifiées. Ses partisans soupçonnent Mme Sirleaf de rouler pour George Weah, candidat d'une autre formation politique. « Ne vous laissez pas décevoir ou distraire par nos détracteurs », a répondu Weah, ancienne gloire du football africain, qui rappelle qu'il avait lui-même accepté sa défaite en 2005 face à Mme Sirleaf.
Au Nigeria, de hauts responsables, dont le directeur général des services de renseignement, ont été limogés pour leur implication présumée dans des affaires de corruption. Le point avec Solange Niamoulissa.
Selon un communiqué de la présidence à Abuja, le directeur général de l'Agence nationale du renseignement, Ayo Oke, et le secrétaire du gouvernement fédéral, Babashir Lawal, avaient été suspendus en avril et ont été limogés avec effet immédiat. Monsieur Oke est soupçonné d'avoir détourné 43 millions de dollars destinés à l'Agence nationale du renseignement et qui ont été retrouvés dans des sacs dans une résidence privée de Lagos. Monsieur Lawal est soupçonné d'avoir accordé des marchés à des entreprises dans lesquelles il avait des intérêts pour des projets de reconstruction dans le nord-est du Nigeria. Le pays est gangréné par la corruption depuis son indépendance. Le président Muhammadu Buhari, depuis son élection en 2015, essaie difficilement de venir à bout de ses fléaux. La Commission des crimes économiques et financiers ouvre chaque semaine des enquêtes, gèle les comptes et les avoirs de personnes impliquées dans le détournement de plusieurs millions de dollars.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, Paul Manafort, un ancien directeur de campagne du candidat Donald Trump en 2016, a été inculpé hier pour complot contre les États-Unis, blanchiment d'argent et mensonge au gouvernement dans le cadre d'un vaste effort de lobbying pour l'ancien homme fort ukrainien Viktor Yanukovych. Monsieur Manafort a été inculpé en même temps que son partenaire Rick Gates, par une chambre d'accusation fédérale, dans l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016. Ils ont tous les deux plaidé non coupables. Un ancien conseiller en politique étrangère, George Papadopoulos, a lui plaidé coupable le 5 octobre dernier, coupable d'avoir menti aux agents fédéraux sur ses contacts avec des intermédiaires russes qui disaient avoir des informations compromettantes sur Hillary Clinton, la rivale démocrate du républicain Trump. Nous reviendrons sur ces développements, Anne, dans la seconde partie de cette édition.
Le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, et son collègue du Département d'État, Rex Tillerson, estiment qu'une nouvelle loi autorisant l'usage de la force n'est pas légalement requise pour mener des opérations de combat contre les groupes terroristes à travers le monde. Ils l'ont dit hier lors de leur déposition devant la Commission sénatoriale des Affaires étrangères, en insistant pour que l'autorisation actuelle ne soit pas annulée, même si le Congrès venait à en adopter une nouvelle pour couvrir la lutte contre le groupe État islamique. Et le nouveau texte, ont poursuivi messieurs Mattis et Tillerson, ne devrait comporter aucune restriction de temps ni aucune limite géographique.
De nouveaux pourparlers de paix sur la Syrie se sont ouverts hier à Astana, la capitale kazakh, pour notamment discuter de la situation humanitaire jugée de plus en plus préoccupante dans ce pays. Prévu pour deux jours, il s'agit du septième cycle de ces négociations parrainée par la Russie et l'Iran, alliés de Damas, et la Turquie soutient des rebelles qui ont surtout abouti à la mise en place de zones de désescalade dans plusieurs régions syriennes.
De hauts dirigeants israéliens et palestiniens ont tenu une rare rencontre dimanche soir à Ramallah, en Cisjordanie occupée, au moment où les États-Unis tentent de relancer un processus de paix moribond. C'est ce qu'a écrit sur Twitter Jason Greenblatt, l'émissaire du président américain Donald Trump pour le Proche-Orient. Cette rencontre est la deuxième du genre, avec les mêmes participants au cours des 6 derniers mois, d'après le quotidien israélien Haaretz. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, Jacques Aristide.
Le Tchad veut transférer les droits de commercialisation de son pétrole brut à la compagnie américaine ExxonMobil dans le cadre d'un accord de prêt d'$1,4 milliard, alors que ces droits sont actuellement détenus par la multinationale de négoce anglo-suisse Glencore. C'est ce que rapporte Reuters. En juin, le président tchadien Idriss Déby avait estimé que le contrat passé en 2013 était un marché de dupes et reconnu que c'était une erreur de son gouvernement. Sous la pression du Fonds monétaire international, N'Djamena tente de renégocier sa lourde dette extérieure, notamment envers Glencore, qui toutefois absorbe la quasi-totalité de ses revenus pétroliers, principale source de revenus du pays. En Côte d'Ivoire, au 29 octobre dernier, environ 168 000 tonnes de cacao ont été acheminées vers les ports du pays à des fins d'exportation depuis le début de la saison le 1er octobre. Il s'agit d'une baisse par rapport à la même période l'année dernière, lorsque le volume s'élevait à 206 000 tonnes. Un institut africain du prix mondial de l'alimentation vient de voir le jour. Il allouera des bourses aux jeunes agriculteurs et agripreneurs d'Afrique. Pour l'heure, $600 000 ont été réunis pour ce faire. La Fondation pour le prix mondial de l'alimentation s'est associée au président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, lauréat du prix mondial de l'alimentation 2017, pour créer cet institut.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Dernière journée de la phase de poule en Ligue des Champions en Europe.
Oui, le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone et Manchester United peuvent valider ce mardi leur ticket pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Ils pourraient également être rejoints par le Bayern Munich, le FC Bâle ou encore la Juventus Turin. Les choses sont plus serrées pour Chelsea qui se déplace chez l'AS Rome alors que l'Atlético Madrid joue sa survie à domicile contre Karabakh. On résume dans le groupe A, Manchester United reçoit Benfica, le FC Bâle contre le CSKA Moscou. Dans le groupe B, réception a priori sans problème au Parc des Princes pour le PSG face à Anderlecht, le Celtic à Glasgow accueille le Bayern Munich. Dans le groupe C, je le disais, l'Atlético Madrid reçoit Karabakh, l'AS Rome, Chelsea. Enfin, dans le groupe D, le Barça se déplace chez l'Olympiakos. On rappelle que Barcelone est invaincu cette saison depuis les deux revers initiaux en Supercoupe d'Espagne contre le Real Madrid, le Barça qui caracole également en tête du championnat d'Espagne. La Juventus, en cas de victoire à Lisbonne, sur la pelouse du Sporting Portugal, accéderait également au 8e de finale.
Sanction pour l'Espérance de Tunis en handball.
L'Espérance de Tunis a écopé une amende de 5000 euros pour comportement antisportif lors de la finale du 39e championnat d'Afrique des clubs de handball, une défaite 31-29 face aux Amalek d'Égypte. Les supporters de l'Espérance de Tunis s'étaient manifestés par des jets de projectiles sur le terrain, ce qui a occasionné un arrêt du match pendant plus de 15 minutes. Chez les dames, les Angolaises ont battu les Tunisiennes de Sfax 30-17 et remportent un 4e titre d'affilée.
Basket, Kaba jouera pour le Sili National.
Et oui, l'intérieur de Villeurbanne, Alpha Kaba, 2m08, 21 ans, a renoncé à faire partie de l'équipe de France de basket pour se consacrer à la sélection guinéenne. Allez Drissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Boston Celtics bat San Antonio Spurs 108-94. Miami Heat battu par Minnesota Timberwolves 122-125. New York Knicks bat Denver Nuggets 116-110. Houston Rockets succombe à Philadelphia Sixers 107-115. Victoire de Charlotte Hornets sur Memphis Grizzlies 104-99. Orlando Magic bat New Orleans Pelicans 115-99. Utah Jazz contre Dallas Mavericks 104-89.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les États-Unis ont annoncé hier une aide financière aux pays du Sahel engagés dans la lutte contre les djihadistes. Une enveloppe de 60 millions de dollars a été promise par le secrétaire d'État Rex Tillerson. Le budget total est estimé à 423 millions de dollars. Pour davantage de détails, Claire Moret-Gibourg a joint le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Alpha Barry.
Aujourd'hui, on peut dire que la force conjointe du G5 Sahel est déjà opérationnelle dans sa partie physio-centrale, c'est-à-dire au niveau de ce qu'on peut dire le triangle Mali-Niger-Burkina, puisque il y a une opération en principe qui a démarré. L'objectif est de faire en sorte que la force rentre très rapidement dans sa pleine capacité et le besoin est estimé à 423 millions. Pour le moment, nous n'avons réuni que 108 millions, y compris les 50 millions fournis par les 5 États. Et la réunion que nous avons faite au Conseil de sécurité visait deux choses, à soutenir le rapport produit par le secrétaire général et à montrer la nécessité d'une résolution du Conseil de sécurité pour que l'ONU puisse appuyer le G5 du Sahel et d'autre part, mobiliser la communauté internationale pour des financements pérennes et cela passe par la conférence des donateurs prévue à Bruxelles.
Est-ce que vous êtes confiant concernant le budget dont vous avez besoin ?
Le budget dont on a besoin, c'est quelque chose qui est à la portée de la communauté internationale parce que c'est 423 millions. On voit pour d'autres régions des financements beaucoup plus importants pour des menaces qui sont, de moindre importance. Ici, la sécurité du Sahel, c'est la sécurité de toute l'Afrique de l'Ouest. Et c'est aussi la sécurité de la partie nord de l'Afrique, c'est aussi la sécurité du monde. Et donc, si on ne dépense pas 423 millions maintenant, on dépensera beaucoup plus. Ça, c'est notre conviction. Les Européens nous parlent de 250 millions d'euros. Dans tous les cas, avec 250 millions ou sans rien, on est obligé de faire quelque chose, on est obligé de commencer les opérations. Donc, pour le moment, il y a 108 millions qui sont sur la table. Les opérations commencent, mais au fur et à mesure, la force va monter en puissance. Donc, ça peut être 250 millions demain. Après demain, ça peut être 423 millions. Donc, pour nous, c'est un objectif qu'il faut forcément atteindre.
Alpha Barry, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
La Côte d'Ivoire veut tirer le maximum possible de l'AGOA, ce dispositif qui exonère de droits de douane de nombreux produits africains exportés vers les États-Unis. Et c'est dans cette optique que le gouvernement ivoirien vient de se doter d'une stratégie. D'Abidjan, les précisions de notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
La loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, AGOA, a été adoptée le 18 mai 2000 par le Congrès américain et confère des préférences commerciales à 38 pays africains subsahariens dont la Côte d'Ivoire. Près de 7000 produits exportés vers les États-Unis sont ainsi exonérés de droits de douane. La Côte d'Ivoire entend donc booster ses exportations à travers la mise sur pied d'une nouvelle stratégie. Souleymane Diarra Souba, ministre ivoirien du Commerce.
L'avantage d'une stratégie, c'est qu'on sait désormais où on va. C'est qu'on te donne également des objectifs qui sont quantifiés. On est à environ à 1,1 milliard de dollars aujourd'hui. En 2025, on veut être à 3,5 milliards de dollars. Et comment y arriver ? Se donner les moyens pour pouvoir y arriver. On parle des moyens financiers, des moyens en termes d'assistance technique, de renforcement des capacités et avec un organe qui va s'occuper de la mise en œuvre et du suivi de cette matrice d'action.
Ali Keïta est le directeur général de Carité Afrique. L'AGOA, dit-il, est une grande opportunité pour les exportateurs du continent.
Carité Afrique est un petit produit de l'AGOA. J'ai été appuyé depuis 2015 par l'AGOA sur l'exportation de nombreux produits sur les États-Unis. Donc c'est une fierté pour nous que l'AGOA est relancée jusqu'en 2025. Ça nous permettra aussi d'entraîner pas mal d'entreprises dans l'exportation. Parce que le gros problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire, particulièrement en Afrique, c'est le volet financement. C'est une chance que nous devrons saisir parce que AGOA a prévu le financement des petits producteurs.
La chargée d'affaires de l'ambassade l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire espère pour sa part que la Côte d'Ivoire saura tirer le maximum de profit de cette opportunité. Catherine Brooker.
C'est une grande opportunité pour la Côte d'Ivoire d'augmenter les exports vers les États-Unis, surtout dans 6 secteurs ciblés. Et j'espère que la Côte d'Ivoire puisse profiter des atouts de la GOA d'ici 2025.
Sur les ambitions de la Côte d'Ivoire, on écoute le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.
Grâce à cet avantage préférentiel, les États-Unis d'Amérique sont l'un des principaux partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire. Le pays est le deuxième client et le cinquième fournisseur de la Côte d'Ivoire. L'ambition du gouvernement est d'accroître les exportations de la Côte d'Ivoire vers les États-Unis et de passer d'environ 1 milliard de dollars US en 2016 à environ 3,5 milliards de dollars US à l'horizon 2025.
L'AGOA prend fin en 2025 et ne devrait pas être reconduit selon le gouvernement américain. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Au Canada, des ressortissants tchadiens ont manifesté hier à Montréal pour exprimer leur mécontentement face à ce qu'ils appellent les agissements du régime d'Idriss Déby Itno. Ils ont dénoncé, entre autres, l'arrestation au Niger de 2 opposants tchadiens, le maintien en prison de Médard Laocane, ex-maire de Moundou, et l'emprisonnement d'un journaliste au Tchad pour ses écrits. Yacouba Ouédraogo a joint un des manifestants, Mohamed Ali Youssouf, opposant tchadien résident à Montréal.
Il y a eu dernièrement des arrestations, de 3 opposants à l'aéroport de Niamey qui sont de transit. Il s'agit de l'ex-député Abdelman Issa Youssouf, Mohamed Hassan Boulmaï et Adam Yabou. Il y a aussi eu des arrestations à l'intérieur du pays, l'ex-maire de Moundou, M. Laocane. Et il y a aussi des arrestations de journalistes et d'autres défenseurs des droits de l'homme. Donc nous, on manifeste devant le Parlement canadien pour attirer l'attention des parlementaires canadiens.
Qu'est-ce que vous attendez des parlementaires canadiens?
On attend à ce qu'ils prennent conscience des atrocités qui se passent au Tchad. On manifeste ici et après on va donner un mémorandum aux autorités canadiennes pour qu'ils prennent des actes comme le président Trump avait pris aux États-Unis.
Quel genre d'actes?
Le régime d'Idriss Déby, il pilote des entreprises de torture. C'est interdit par la Convention de Genève, c'est interdit par toutes les institutions des droits de l'homme. Il y a aussi des rapports d'une amnistie internationale, Human Rights Watch et aussi des rapports dernièrement du Conseil de sécurité sur le Centrafrique.
Qu'est-ce que vous entendez passer comme message à la communauté internationale?
Les dernières rencontres à l'ONU 21 septembre, Conseil de sécurité, c'est-à-dire ils ont mis le respect de l'homme au premier plan. Et la communauté internationale doit ouvrir ses yeux et voir ce qui se passe au Tchad. Vraiment un régime qui est en train de nous assassiner. Même le rapport des ambassades des États-Unis a déjà dit un rapport accablant. Avec 67 prisons secrètes, on détient des gens en secret et ils n'ont même pas l'accès à l'avocat. Il faut que ce régime cesse de terroriser son peuple. Donc on ne peut pas accepter ça.
Est-ce que vous pensez que vous serez entendu?
On va donner le mémorandum et on va marcher vers l'ambassade de France qui représente le Niger. On va donner le mémorandum. Les opposants étaient sous la protection des autorités françaises. Ils ont le statut de réfugiés. Ces gens, on ne sait jamais s'ils sont tués et s'ils sont transférés au Tchad. Et ça, on manifeste, on réclame les droits de ces personnes.
L'opposant tchadien Mohamed Ali Youssouf joint à Montréal.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Ici aux États-Unis, l'enquête du procureur spécial Robert Mueller a abouti aux premières inculpations. L'ancien directeur de campagne du président Trump, Paul Manafort, et son associé Richard Gates sont accusés de complot contre les États-Unis, blanchiment d'argent et fraude fiscale. Un ancien conseiller en politique étrangère du président Trump, George Papadopoulos, lui, est accusé d'avoir menti au FBI, la police fédérale, concernant ses contacts avec des intermédiaires russes. Avec nous pour faire le point, Timothée Donangmaï. D'abord, Timothée, quel lien y a-t-il entre les investigations du procureur spécial Mueller et l'ingérence présumée de la Russie dans la dernière présidentielle américaine?
Il faut rappeler que Paul Manafort était directeur de campagne du candidat Donald Trump, puis a été forcé de démissionner suite aux révélations des médias sur ses relations avec des groupes ukrainiens pro-russes. Richard Gates, lui, a occupé un certain nombre de postes au sein de l'équipe de campagne de Trump. Aucun des chefs d'accusation retenus contre eux n'est directement lié à leurs activités au sein de cette équipe de campagne. Les faits retenus contre George Papadopoulos sont plus graves en ce sens qu'ils ont trait à une possible collusion entre l'équipe du candidat Trump et Moscou, ce qui constitue le principal sujet de l'enquête du procureur spécial Robert Mueller.
Que reproche-t-on à Manafort, Gates et Papadopoulos?
Le dossier d'inculpation cite des faits liés à l'activité de lobbying menée par Manafort et Gates au bénéfice de groupes politiques ukrainiens pro-russes. Les deux hommes auraient engrangé des millions de dollars de paiement dans des paradis fiscaux et n'en auraient pas informé le fisc américain. Ils auraient menti au FBI sur la nature de leurs liens avec des ressortissants étrangers. Papadopoulos, lui, a plaidé coupable, début octobre, d'avoir été en contact avec un professeur étranger disant disposer d'importantes relations à Moscou. Le professeur lui aurait fait savoir que les Russes disposaient d'informations compromettantes sur Hillary Clinton sous la forme de milliers d'emails.
Et quelle est la gravité de ces actes, Tim?
L'acte d'inculpation de Manafort et Gates n'atteint pas le niveau espéré ou attendu par les démocrates, à savoir celui d'une collusion avec les Russes. Qu'à cela ne tienne, l'inculpation de l'ancien directeur de campagne de Trump pour divers crimes et ses contacts secrets avec des groupes pro-russes sont une sérieuse affaire. De l'avis de certains analystes, le procureur spécial Robert Mueller pourrait tenter d'utiliser l'inculpation de Manafort et des autres comme moyen de pression pour obtenir des aveux sur d'autres crimes. Cela semble être le cas pour George Papadopoulos qui, selon le ministère américain de la Justice, coopère déjà en tant que témoin.
Comment la Maison-Blanche a-t-elle réagi à ces développements?
Le président Trump a tweeté « Désolé, cela a eu lieu une année avant que Manafort ne rejoigne la campagne de Trump. Mais pourquoi Hillary la véreuse et les démocrates ne sont pas le centre d'attention ?» Et dans un autre tweet, « Et aussi, il n'y a pas de collusion. » Lors de son point de presse de lundi, la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee Sanders, a assuré que le président Trump n'a aucune intention au projet de changement en ce qui concerne le procureur spécial Robert Mueller.
Merci Tim.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
VOAAfrique vous donne la parole.
Dans un nouveau programme interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à 18h TU.
Postez vos questions sur notre page Facebook avec votre numéro de téléphone et partagez votre avis en direct sur les points saillants de l'actualité.
À votre avis,
votre voix sur la Voix de l'Amérique.
Prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons du paludisme chez les femmes enceintes et des conséquences chez les enfants.
L'infection paludiste pendant la grossesse représente un problème de santé publique en Afrique, provoquant des anémies maternelles, des avortements, ainsi que des faibles poids de naissance et des retards de croissance chez les nouveau-nés.
Pour en parler, nous recevrons le professeur Philippe Donen de l'Université libre de Bruxelles, auteur d'une étude sur la question dans le Sud Kivu en RDC.
Nous écouterons aussi le docteur Rwamba Toussaint, médecin généraliste au Burkina Faso. Il nous parlera des moyens de prévention.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Greg Burns. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington, bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.